Que le nom du Seigneur soit béni. Nous glorifions le Seigneur déjà pour tout ce que nous avons vécu ensemble ce matin. On va commencer par un premier texte qui va nous amener petit à petit à arriver sur le titre de notre message. On va lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Livre de l'Exode, au chapitre 17, et nous lirons à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Mais que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. » Pardon ? Le fleuve, j'ai dit le peuple ? Oui, c'est ça. C'est les lunettes, hein ? Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, notez bien ceci, en disant, « L'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Combien de fois, nous aussi, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre Église, à l'échelle de notre communauté, combien de fois, peut-être nous aussi, nous avons eu, peut-être pas exactement la même question, mais en tout cas un questionnement avoisinant dans certaines circonstances de notre vie où nous nous sommes posé la question, mais Dieu où est-il ? L'Éternel était-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Peut-être que parfois nous avons même remis en cause la présence de Dieu dans notre vie, comme l'a fait le peuple d'Israël, alors que quand vous lisez les passages précédents, on voit que la présence, la toute-puissance, le bras étendu de Dieu est constamment auprès d'Israël et on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit rempli de confiance, que celui qui avait pourvu à tous leurs besoins, qui les avait quand même délivrés de l'esclavage en Égypte, qui avait, excusez-moi le peu, ouvert la mer Rouge, créé en quelques secondes une route pour la délivrance du peuple, on aurait pu s'attendre un peu plus de confiance. Alors c'est vrai qu'il faut quand même replacer dans le contexte, le peuple est dans le désert. Et quand on a soif dans le désert, c'est une question de vie ou de mort. Et on peut comprendre qu'ils étaient pressés par cette soif. Est-ce que parfois aussi dans notre vie, nous aussi, nous ne sommes pas pressés par des situations qui sont des situations importantes pour nous ? Peut-être que comme les enfants d'Israël lors de leur délivrance d'Égypte, Dieu a parfois accompli de grands miracles et de prodiges dans nos vies. Vous n'avez pas remarqué parfois, peut-être au début de notre conversion, comment les choses paraissent faciles, surnaturelles parfois. Et peut-être que, eh bien, à l'échelle de notre vie, de notre famille, peut-être même à l'échelle d'une église aussi, d'une communauté, nous avons vu la main de Dieu agir avec puissance, à tel point que peut-être il nous semblait qu'il serait naturel qu'il en soit toujours ainsi. Mais la foi vivante que Dieu veut que nous développions, ce n'est pas heureux ceux qui ont vu et qui ont cru, mais la foi vivante que Dieu veut que nous développions, c'est heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ce que Jésus a dit à Thomas lors de cette deuxième rencontre avec les disciples où Thomas était présent. la foi vivante que Dieu veut que nous développions et dans laquelle Dieu veut que nous grandissions les uns et les autres, c'est heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Avant de ressusciter Lazare, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » dans Jean 11, verset 40. Je sais bien que nous pouvons remettre en question la présence de Dieu dans nos vies à cause de nos désobéissances, de notre négligence. Et c'est souvent enseigné et prêché ici, et je veux que ce message que nous partageons ce matin aille en complémentarité de ce qui est prêché dans ce lieu. Parfois, Dieu s'est retiré de nous à cause de notre désobéissance. Et nous voyons même dans les pays dits christianisés, qui normalement suivent en tout cas les conseils et les enseignements de Christ, nous voyons que nous avons délibérément tourné le dos à l'Évangile, et ne nous étonnons pas, quelque part, que Dieu se soit aussi, d'une certaine manière, retiré, ou comme dit l'apôtre Paul dans Romains plutôt, Dieu laisse ses nations livrées à elles-mêmes, puisque c'est leur choix. Et il est possible parfois que dans notre vie, effectivement, nous remettions en question la présence de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, parce que nous avons désobéi, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, et quelque part, nous avons toujours besoin, lorsque nous sommes dans ces situations-là, de nous examiner nous-mêmes, de voir si notre vie est bien en règle avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas, à la lecture de la parole de Dieu, considérer que l'absence de l'intervention de la puissance de Dieu dans nos vies est systématiquement liée à notre propre fait, au risque parfois de nous culpabiliser à tort, voire pire, de culpabiliser les autres. D'ailleurs, nous voyons dans cette histoire-là que Dieu va tout de même accomplir le prodige, pas à cause de la foi du peuple, pas à cause de la foi du peuple. Mais Dieu est tellement bon. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je le dis très solennellement ce matin. Si quelqu'un au milieu de nous a un besoin dans son corps, dans sa vie, une question, peut-être pas le juger de la même manière, peut-être pas de vie et de mort comme on l'a vu dans ce texte-là. Si quelqu'un a un besoin important en ce moment, à cet instant précis, je crois de tout mon cœur, selon la parole de Dieu, que Dieu peut vous exaucer instantanément. Vous êtes là, vous entendez la parole de Dieu, Dieu peut vous bénir, Dieu peut vous guérir. Des situations, peut-être ça fait des années que vous attendez, Dieu peut vous combler instantanément. Je dirais même plus, tout autant que nous sommes ce matin, Dieu peut nous combler tous, personnellement, individuellement. Mais je sais aussi que tout autant que nous sommes, Dieu peut avoir des projets différents dans nos vies. Ne prenons pas le risque, comme l'a fait le peuple d'Israël, de tenter Dieu. Avec cette question, l'Éternel Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ou cette autre question qui reviendra plusieurs fois ce matin, pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Peut-être comme il l'a fait par le passé, peut-être qu'il l'a fait dans d'autres circonstances. Pourquoi? Pourquoi? Et notre message, il va partir de cette question, mais on va la poser différemment. Et le titre de notre message sera le suivant. Pourquoi Dieu agit? Pourquoi Dieu agit? Mais avant de développer ce message, je voudrais, comme en introduction, revenir quand même sur cette question. Pourquoi Dieu n'agit pas? Alors, soyons très clairs, Dieu ne cesse d'agir. Et nous en sommes tous la preuve évidente, parce que nous avons en nous le souffle de vie. Et c'est Élie, quand il s'approche de Job, qui dira ceci, « Qui a chargé l'Éternel de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » Dans Job 34, verset 13, et le verset 15. Dieu ne cesse d'agir. La paix, la joie, l'amour, la grâce qui se renouvelle dans nos vies, autour de nous, des conversions, transformations de vie, Dieu ne cesse d'agir. Et rien que cette pensée devrait combler nos vies, devrait constamment nous remplir de gratitude envers notre Dieu, même si parfois, c'est vrai, le chemin semble plus difficile, comme cela a été pour le peuple d'Israël, qui ont été pressés par la soif. Examinons-nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si rien dans nos vies ne fait obstacle à la bénédiction de Dieu, et ensuite, restons pleins de confiance envers l'Éternel. S'il plaît à Dieu, de nous laisser un temps au désert, comme ce fut le cas pour Job. Cette question, pourquoi Dieu n'agit pas, elle peut risquer de nous entraîner dans une forme de pessimisme ambiant qui ne glorifie pas Dieu, voire même de nous faire murmurer, de nous plaindre, pire, de tenter Dieu. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans notre marche chrétienne que de se retrouver, vous savez, dans la position des amis de Job. D'être là, d'oublier que dans tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, il reste à jamais éternellement souverain. Vous savez, les amis de Job ont cherché par tous les moyens la faute de l'inaction de Dieu. Vous savez où ? Dans la vie de Job. Et je peux vous dire que Job, il n'avait pas besoin de ça. Je sais que nous soupirons après un réveil, après la manifestation glorieuse de la puissance de notre Seigneur, et nous avons raison de le faire et de prier pour cela. Je fais une petite parenthèse, si nous concevons que nous avons besoin de réveil, c'est surtout parce que finalement nous réalisons que nous nous sommes endormis. Si la notion de réveil, c'est parce que bien nous réalisons qu'à un certain moment donné, nous nous sommes endormis et que nous avons besoin, nous, de nous réveiller. Mais surtout, n'en faisons pas une base pour notre foi. Car ce que Dieu veut, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est que nous marchions par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Vous savez ce que Jésus a dit à cette grande foule pour laquelle il avait multiplié les pains et les poissons. Vous savez, c'est cette multiplication, c'est quelque chose, c'est, une fois qu'on lit ce texte, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment les choses se sont manifestées, mais vous voyez, cette multiplication du pain, des poissons, etc. Et le lendemain, il y a cette foule qui cherche le Seigneur Jésus, qui arrive à le retrouver. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus va leur dire ? Il le dit ceci, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle, dans Jean 6, versets 26 et 27. Tout comme le peuple d'Israël s'était habitué à la main toute puissante de Dieu pour agir en leur faveur, nous pouvons nous aussi nous habituer, en tout cas désirer, nous attendre presque comme une normalité, que dans les situations particulières de notre vie, sa main puissante agit dans nos vies. Mais le jour où, comme dans la vie de Job, Dieu a choisi une autre voie pour nous. Peut-être que Dieu choisira un chemin de souffrance pour servir et célébrer la gloire de son nom, comme cela a été pour Job. Ne prenons pas le risque de tenter Dieu en disant pourquoi Dieu n'agit pas, alors qu'il n'a jamais cessé d'être à nos côtés. Ma conviction profonde, c'est qu'une Église qui vit dans le réveil, c'est une Église qui croit que Dieu a été toujours au milieu d'elle, hein, quelles que soient les circonstances. L'Assemblée qui vit dans cette foi vivante qui honore notre Dieu, même dans le désert, je le dis, cette Assemblée, elle vit dans le réveil. Regardez les Églises persécutées. Est-ce leur piété qui doit être remise en question ? Est-ce que c'est leur manque de consécration ? Il est dit dans l'histoire de Job, que l'Éternel a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y en avait pas deux comme Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job, chapitre 1er, verset 8. « Ces hommes et ces femmes qui, par-delà la terre, vivent des persécutions, il y a des meurtres d'hommes et de femmes qui, au péril de leur foi, essayent de continuer à lire la parole de Dieu, à être engagés. Pourquoi ? Tant de mystères, de questions dans nos cœurs. Ce n'est pas leur piété qui doit être remise en question. Ils sont dans cette foi vivante et c'est même extraordinaire de voir qu'eux vivent parfois plus le réveil que ce que nous, nous pouvons vivre alors que nous avons tout le confort, la paix et la sérénité. Quand vous lisez ces témoignages, ils sont absolument bouleversants. N'oublions pas que dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, vous savez ce chapitre où il y a cet énoncé de tous les témoins de la foi, il est écrit ceci, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres, ils furent livrés au tourment. » Et ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Hébreux 11, versets 35 à 37. Oui, dans tous ces témoins de la foi, il y a aussi ces hommes et ces femmes qui sont passés par des souffrances, par des chemins difficiles, rempli certainement de questions et de mystères pour leur propre vie, mais en tout cas qui étaient le chemin et les voies de Dieu. De toutes les manières, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas comme nous pensons qu'il devrait le faire, qu'il ne le fait pas. L'Éternel dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas « Mes voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, verset 8 et verset 9. Nous avons deux exemples significatifs dans la parole de Dieu où, a priori, Dieu semble totalement absent. Où on pourrait se poser cette question presque normalement, mais pourquoi Dieu n'agit pas alors que Dieu agit plus que jamais? C'est l'histoire de, vous savez, de Jonas dans le ventre du poisson, et c'est aussi cet épisode où Jésus est dans le tombeau. Deux exemples très significatifs que d'ailleurs Jésus, vous savez, il a relié ces deux événements en disant ceci, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, et 3 nuits dans le sein de la terre, dans Matthieu 12 et verset 40. Vous imaginez que le seul espoir pour le salut de Ninive reposait sur un homme, Jonas, et qu'à un certain moment donné, pour ceux qui connaissent les circonstances, cet espoir, ce seul espoir pour les Ninivites, d'un seul coup, il s'écroule comme un château de cartes lorsque Jonas est jeté à la mer et qu'il disparaît dans l'abîme des océans. Vous vous imaginez devant cette scène, mais se dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Alors qu'à ce moment même, Dieu, dans le ventre de ce grand poisson, est en train de préparer son serviteur pour le salut de Ninive. N'ayons pas peur des mots ce matin. Dieu travaille souvent en sous-marin. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui frappe forcément l'œil humain, mais tellement efficace. Dans vos vies, autour de vous, dans nos églises, dans nos assemblées, vous n'imaginez certainement pas tout ce que Dieu, parfois discrètement, met en place pour la bénédiction. Que dire de Jésus dans le tombeau ? Il était l'espoir de tout un peuple qui vivait dans la servitude quand il est rentré à Jérusalem. Tout le monde croyait que on allait introniser le roi des Juifs qui allait délivrer la nation. Vous imaginez devant le tombeau, après une agonie des plus terribles, quelle désillusion. Vous vous rappelez les paroles des disciples d'Emmaüs ? nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Luc 24, verset 21. Comment voir la même puissante agissante de Dieu devant ce tombeau où l'on vient d'ensevelir le Seigneur Jésus après une des agonies les plus terribles? Combien de personnes auraient raison devant une telle désillusion de dire « Mais pourquoi Dieu n'agit pas ?» alors que dans ce tombeau, Dieu est en train de préparer le plus grand plan de salut que l'humanité a pu connaître. Oui, Dieu a ses façons d'agir, qui parfois nous déconcertent, parfois nous dépassent. Mais qu'importe. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous apesantir sur cette question, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Mais nous allons nous apesantir sur cette autre question qui me semble beaucoup plus positive. Hein, pourquoi Dieu agit? Et la structure de ce message va s'articuler autour de trois textes. Trois textes qui sont les trois résurrections que Jésus a opérées. Vous savez que les miracles de Jésus, je l'ai rappelé tout à l'heure dans un verset, sont souvent un signe. L'aveugle né, je suis la lumière du monde, la multiplication des pains, je suis le pain de vie. Et pour moi, la résurrection reste, après le salut, le miracle le plus saisissant que Jésus a accompli. Vous savez, dans tous les progrès de la médecine aujourd'hui, c'est impressionnant tout ce qu'on est capable de faire. Il y a des paralytiques qui peuvent pratiquement marcher quand on combine la médecine. Vous savez, tous les progrès technologiques, c'est hallucinant. On peut même faire voir à des gens qui ont été aveugles. Mais il y a comme une, vous savez, comme une barrière. Après la mort, la médecine est totalement impuissante. Et derrière ces trois résurrections, nous voyons très clairement trois mobiles de l'action de Dieu envers l'humanité. Et le premier, nous allons le lire ensemble dans Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 11. Chaque fois que nous relisons ces textes, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de lire, nous les connaissons. Et je crois que c'est aussi l'occasion de fortifier notre foi. Ça a été rappelé ce matin, nous avons un Dieu qui est puissant, il n'a aucune limite. Et je crois que dans beaucoup de situations, nous aussi, nous pouvons espérer en Dieu. Parce que même là où il y a la mort, même là où il y a, excusez-moi l'expression, ça sent mauvais, Dieu est tout puissant pour donner la vie. Tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir pour toutes les situations de nos vies. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Je parlais tout à l'heure de ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, mais assister aussi à la résurrection de la veuve de Naïn devait être quelque chose d'impressionnant. Verset 13, Jésus l'ayant vu fut ému de compassion. Pourquoi Dieu agit? Ça c'est le premier point que nous partageons ensemble. Dieu agit par amour. Oui, le mobile de l'action de Dieu envers l'humanité, c'est l'amour. Nicolas nous l'a rappelé tout à l'heure. Je voudrais le relire avec vous parce que peut-être quelqu'un ne l'a jamais lu. Dans Jean, au chapitre 3, le verset 16. Nous pouvons pratiquement tous, je pense, le réciter par cœur, mais je voudrais qu'on le lise ensemble. Jean, chapitre 3, verset 16. Pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Nicolas nous l'a rappelé tout à l'heure, parce qu'il nous aime. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce qui a poussé le Seigneur à sacrifier son Fils, son unique, son être le plus cher, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, c'est son amour. Et c'est tout le sens de la croix du calvaire. La croix qui est dressée encore pour tous les hommes aujourd'hui, c'est la parole que Dieu nous donne, « Je t'aime ». Un cri d'amour, d'espoir pour toute l'humanité. Paul le dit avec beaucoup de force, Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, dans Romains chapitre 5, verset 8. Oui, pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Dieu agit par amour. Et c'est important, vous allez dire, la plupart vous le savez. Mais c'est une réalité où nous devons constamment garder notre vie fondée dessus. Sur son amour, je me repose. Quand je prie, quand je vis, quand je médite sa parole, pourquoi je vais réclamer l'action de Dieu dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que je vais réclamer à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui offrir en retour? Je vais me reposer sur son amour. Oui, tu as tellement aimé le monde. Tu as sacrifié ton Fils. Oui, si tu m'as donné, au travers de Jésus, le plus grand des cadeaux de ma vie, le salut de mon âme, à combien plus forte raison je peux m'attendre à toi aussi pour tous les besoins de ma vie. La Bible est formelle et le christianisme doit être fondé sur cette pensée fondamentale, Dieu est amour. On va le lire ensemble dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Un Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Lisons le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Alléluia. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Dieu est amour. Pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Paul donne son témoignage en ces termes. Vous savez, Paul a considéré que Dieu l'avait sauvé, lui qui était le persécuteur de l'Église et qui se met un petit peu comme le premier des pécheurs pour montrer à l'humanité quel genre d'homme Dieu était capable de sauver. Et il dit ce témoignage, « Ah, comme elle est vraie cette parole, comme elle est importante et digne d'être acceptée sans réserve par tous les hommes, le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part le premier d'entre eux, et c'est bien pour cela qu'il a eu pitié de moi. En offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. Je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. Dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 15 et verset 16, vous ne les trouverez pas exactement comme ça parce que je vous ai lu la transcription parole vivante. Pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Vous savez, longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Et pourquoi Dieu est intervenu ? Il est écrit ceci, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu, regardant les enfants d'Israël, et il est écrit ceci, il en eut compassion. » Dieu a décidé d'intervenir par compassion, par amour pour son peuple. Je vous ai lu Exode 3, versets 7 à 8, et Exode 2, au verset 25. Soyons tout à fait conscients que le mobile principal de l'action de Dieu en notre faveur, ce n'est rien d'autre que son amour et sa compassion. Et j'ai envie de rajouter un petit peu, et heureusement. Combien de fois nous pourrions nous présenter devant lui, dignes de recevoir quoi que ce soit de sa part, si nous ne nous reposons pas tout simplement sur son amour, sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur sa patience à notre égard. Enfin, en tout cas, je le dis au moins pour moi. Vous savez, quand on lit l'histoire du fils prodigue, on est touché par l'attitude de ce père qui, d'une certaine manière, attendait le retour de son fils. Le fils, il avait demandé la part de bien, il était parti, il avait tout dilapidé, il s'était carrément éloigné de son père. Mais il est écrit ceci, le jeune homme se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. N'est-il pas merveilleux notre père ? C'est un père aimant. Avant même que ce fils prodigue puisse dire quoi que ce soit à son père rempli d'amour étreint son enfant. Même quand le peuple d'Israël s'est plusieurs fois éloigné de Dieu, Dieu a continué à exercer sa miséricorde envers lui. Notez-le, vous le lirez chez vous, lisez le chapitre 9 du livre de Néhémie, qui fait une rétrospective de l'action de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et parfois Dieu agit en leur faveur, il a miséricorde, compassion, et parfois il agit en défaveur dans le sens où ils ont désobéi. Et je vais vous lire juste un texte. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis. Je fais une petite parenthèse, c'est ce que je vous disais au début, qu'il est important de s'examiner soi-même parce que finalement, par notre attitude, notre péché, désobéissance, nous pouvons nous-mêmes nous éloigner en quelque sorte de Dieu. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir, de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Néhémie chapitre 9, versets 28 à 31. Mais relisez, si vous le souhaitez, tout ce chapitre pour voir l'action de Dieu en faveur du peuple d'Israël qui nous montre combien notre Dieu, le mobile principal et que nous voyons dans cette résurrection du fils de la veuve de Naïn, c'est l'intention de Dieu d'agir parce qu'il nous aime. Dieu agit par amour. Alors, je profite quand même de cette allusion au livre de Néhémie pour dire quand même quelque chose qui est fondamental, c'est que l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. Comme nous le voyons dans ce chapitre que je vous ai lu, la colère de Dieu se manifeste réellement sur ceux qui lui désobéissent. Il est écrit dans ces versets, tu les livreras. Et n'oublions jamais que la justice de Dieu et sa miséricorde sont absolument indissociables. David dit clairement ceci, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. La justice de Dieu et sa miséricorde sont indissociables. Je sais qu'on a souvent, parfois, non je dis souvent, eu beaucoup de difficultés à admettre que Dieu pouvait être à la fois miséricordieux, rempli de bonté, rempli d'amour, et à la fois juste, que parfois il peut être en colère, tout en restant riche en bonté. J'ai souvent remarqué que dans l'éducation de nos enfants, on tombait aussi facilement d'un côté ou d'un autre. Il y a eu quelques générations où les parents étaient un peu plus distants avec les enfants, avaient moins de complicité, peut-être un peu plus sévères, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut y mettre. Aujourd'hui, nous remarquons un effet un petit peu inverse. On veut garder une distance intéressante avec les enfants, une certaine complicité. Alors, il y a aussi tout le mécanisme de la psychologie de l'enfant, puisque, je ne veux pas m'éloigner sur ce terrain, mais bientôt, on pourra plus les corriger non plus, donc bon, voilà, je j'argumente pas sur tout ça, mais il y a une recherche de proximité qui se fait parfois au détriment de ne pas vouloir les froisser, mais une absence de sévérité fait que de moins en moins, nous sommes respectés par nos enfants. Petite parenthèse. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre d'un côté la sévérité, les exigences, et de l'autre côté, l'amour et la tendresse d'un père aimant. C'est un équilibre à avoir, l'amour et l'éducation. Et j'avoue que c'est vrai, parfois, pas très simple à vivre. Parfois, on est un peu, vous savez, comme ce funambule. On cherche l'équilibre, d'un coup, on a l'impression qu'il va tomber et basculer d'un autre. Qui pourrait dire d'un père qui passe du temps avec son enfant qu'il est trop aimant? Qui peut dire que d'un père, parce qu'il corrige son enfant, qu'il est peu aimant? Vous savez, c'est un peu la même chose quand Dieu agit envers nous, parce qu'il agit comme un père agit envers son enfant. La parole de Dieu dit ceci, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qui chérit. » La justice de Dieu, la miséricorde de Dieu sont absolument indissociables. Et lorsque nous voyons l'Éternel conduire le peuple d'Israël qu'il s'est choisi, nous retrouvons ces deux attributs constamment, la justice et la miséricorde de Dieu. Je vous l'ai dit, le peuple d'Israël a été sauvé de l'esclavage d'Égypte parce que Dieu l'a regardé, parce que Dieu a vu sa souffrance et qu'il en eut compassion. Et l'Éternel s'est choisi un homme, vous savez, Moïse, pour libérer son peuple. Et on va lire juste quelques versets et nous terminerons pour notre première partie ce matin dans Exode 15. Pourquoi Dieu agit? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Dieu est amour. Dieu prouve son amour envers nous, la croix du calvaire, tout ce message. Mais aussi terminer avec cette pensée que l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse et que nous devons considérer dans sa juste mesure la justice de Dieu et la miséricorde totalement indissociables. Alors, juste peut-être, je vous ai dit 15. On va lire juste quelques versets, vous savez, de ce cantique qui a été prononcé juste après la délivrance du passage de la mer Rouge. Au verset 11, il est dit ceci, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. » Verset 13, « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. » Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Amen. Et il faut lire les deux chapitres suivants pour se rendre compte combien le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu à nous chrétiens, est un Dieu miséricordieux. On l'a dit tout à l'heure, pressé par la soif, mais dans d'autres circonstances, le peuple sera pressé par la faim. Et comment l'Éternel va pourvoir d'une manière tout à fait extraordinaire au travers de cette manne, l'écaille, etc. Même quand le peuple sera face à ses ennemis, l'Éternel lui donnera la victoire. Mais lorsque Israël va se détourner de Dieu, vous savez, dans cette histoire où il fabrique le veau d'or, la justice de Dieu va pleinement se manifester. Exode chapitre 32, lisons-le ensemble s'il vous plaît, Exode 32 verset 7. Oui, Dieu est amour, Dieu agit parce qu'il nous aime, mais Dieu est juste. Et dans cette histoire du veau d'or, il est dit dans Exode 32, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » On ne lit pas tous les versets, si vous avez le temps, relisez-les tranquillement chez vous. Mais Moïse va implorer Dieu pour obtenir le pardon de ce grand péché que le peuple avait commis et Dieu va répondre favorablement à la prière de Moïse. Dieu va avoir compassion, pardon, de son peuple, c'est ce qui est rappelé dans Néhémie au chapitre 9 que je vous citais tout à l'heure. Et je termine par cette pensée, c'est dans ce moment particulier de la vie de Moïse où Moïse est à la fois confronté à la colère de Dieu, à la justice de Dieu et à la fois confronté à la miséricorde et à la compassion de Dieu qu'il va tout simplement demander à Dieu de lui faire voir sa gloire. Il veut connaître ce Dieu qui est parfaitement, à la fois parfaitement bon, mais qui est aussi parfaitement juste. Dans Exode au chapitre 33, il est dit ceci, lisez au verset 21, Exode 33, verset 21. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et lisez un peu plus loin avec moi, 34 au verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Amen. L'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. La justice de Dieu, la miséricorde de Dieu sont totalement indissociables. Je vais vous donner un petit peu cet exemple parce que aussi la parole de Dieu en parle. De nous, en tant que parents, pouvons avoir cette position éducative, de sévérité, etc., tout en aimant nos enfants. Comme Dieu a eu compassion de cette veuve, attendons-nous aussi au Seigneur pleinement dans notre vie, à ce qu'il agisse en notre faveur, attendons-nous pleinement à sa miséricorde. Oui, Dieu nous aime. Et il y a un petit cœur que nous chantons parfois, « Il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour, je me repose. Le mystère de toute chose me sera révélé là-haut. Sur son amour, je me repose. » Ce matin, nous avons essayer de décaler un petit peu cette réflexion où, comme le peuple d'Israël, parfois, nous pouvons nous poser la question pourquoi Dieu n'agit pas, pour nous amener sur ce terrain, mais pourquoi en fait? Pourquoi Dieu agit? Qu'est-ce qu'il peut faire pour mouvoir le bras de Dieu? Pourquoi cette action de Dieu? Pourquoi cette manifestation spectaculaire parfois dans nos vies? Dieu agit par amour. Dieu voulant, une autre fois, nous continuerons. Quand Dieu voudra, comme il voudra. L'important, c'est que nous puissions... J'étais plus à l'aise, franchement, de le partager comme ça avec vous, d'y aller tranquillement. Parce qu'il y a besoin aussi d'équilibre dans ce que nous partageons. Et que Dieu nous aide les uns et les autres à rentrer pleinement dans tous ces projets, ces voies que Dieu a pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur ensemble. Éternel, nous te bénissons pour cette matinée que tu nous avais donnée. Merci pour ces temps où nous avons pu louer ton nom, chanter ces cantiques, Seigneur, partager ta parole. Merci pour ta présence, surtout au milieu de nous et dans nos vies. Comme tu nous l'as rappelé ce matin, oui, nous voulons être des témoins aussi à la gloire de ton nom et te prions de nous garder les uns les autres dans les prochaines heures, les prochains jours, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Seigneur, nous voulons que nos vies contribuent à la gloire de ton nom, pas seulement ces deux heures où nous sommes là ensemble, mais tout au long de notre vie, Seigneur. Aide-nous à être des témoins à la gloire de ton nom. Et nous te prions aussi de nous garder cette semence que nous a donnée encore ce matin, que l'ennemi ne vienne pas dérober, que nous ayons cette sagesse de méditer encore, de relire ces passages et de méditer, mais surtout, garde-nous les uns et les autres de vraiment de ne pas rentrer dans ces questionnements qui pourraient nous éloigner de toi. Mais Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchons par la foi en toutes choses, qui glorifient ton nom en toutes circonstances et en toutes situations. Et c'est ainsi que lorsque nous serons ensemble près de toi dans le royaume de Dieu, nous pourrons éternellement nous réjouir en ta présence. Que ton nom soit béni éternel. Amen.